Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Il est des hommes qui vouent leur vie à la mer, réels témoins de l'évolution des institutions et de leur époque. Il est ensuite des marins pour qui la mer devient un rêve, une évidence, puis une seconde nature. Il est enfin des carrières qui se forgent sur les plages bretonnes des années 60, la plage de Sainte-Anne-du-Portique en ce qui concerne notre invité. Notre intervenant du jour, un ancien marin, passé d'aspirant à chef d'état-major de la marine, de marin à conseiller spécial du président de la République, déborde l'école navale aux profondeurs océaniques. Alors comment se forge une carrière? Quel en est le déclencheur? Quelles en sont les péripéties? Et surtout, quelle trace la vie embarquée à bord des bateaux et des sous-marins laisse-t-elle? Pour en parler, le CESM a aujourd'hui l'honneur de recevoir l'amiral Rogel, ancien commandant de sous-marins nucléaires, ancien chef d'état-major de la marine et ancien conseiller militaire particulier du président de la République. Je précise, son plus proche conseiller militaire. Bonjour amiral.
Bonjour.
Une vie sacrément remplie, comment ça se passe aujourd'hui?
Ça se passe très bien. J'essaye d'être un retraité actif et heureux, et je vous rassure, je le suis. Alors que j'ai quitté désormais depuis 3 ans le service actif, je me suis investi dans beaucoup d'activités, pour la plupart liées à la marine, mais pas simplement. Je suis devenu académicien de marine, je suis membre du conseil d'administration de l'Institut français de la mer, membre du conseil d'administration du musée de la marine, et puis je fais... J'ai voulu également rendre tout ce que la marine m'a donné en allant faire des cours dans les lycées, dans les classes de terminale, pour leur parler des enjeux maritimes. Vous savez que les enjeux maritimes, désormais, font partie des programmes scolaires. Donc j'essaye de leur apporter un témoignage et une vision du monde que j'ai forgée pendant de nombreuses années. Et puis, je donne aussi des cours à l'Université de Brest. Et dernièrement, le gouvernement m'a nommé personnalité qualifiée pour le comité France 2030 pour l'exploration des fonds marins, qui est toujours lié à la marine. Et puis, je suis également personnalité qualifiée dans le groupement d'intérêt public sur les cérémonies de commémoration du 80e anniversaire des débarquements et de la libération de la France. Donc, vous voyez... Une vie
sacrément
encore très active, et j'en oublie certainement, évidemment, un certain nombre de conférences, dont certaines au profit du CESM d'ailleurs.
Très bien. Et alors, je crois que les auditeurs ont compris, ça va être une interview qui va être un peu plus longue que les autres, un écho qui va être un peu plus dense que les autres, mais c'est normal parce qu'il faut parler un peu de votre carrière, une carrière que vous relatez largement dans votre livre, Un marin à l'Elysée, mais pour les besoins du podcast, on va se consacrer vraiment sur votre carrière dans la marine. Vous avez passé 20 ans de votre vie dans les forces opérationnelles avec 10 affectations en sous-marin. Pourtant, tout ceci démarre à Brest, sur la plage de Sainte-Anne-du-Portique. Pouvez-vous nous expliquer comment est née votre vocation de marin, notamment ?
Alors, moi, je suis originaire de Brest. Donc, quand on est brestois, on a déjà un peu le sel dans les veines, si je peux me permettre cette expression. Et c'est vrai que ma vocation est venue... D'une double évidence. La première évidence, c'était le désir de servir mes compatriotes. Je viens d'une banlieue populaire de Brest, populaire au sens modeste de Brest, et c'est vrai que dans ce milieu qui a fait mon éducation, on se mettait volontiers au service des autres. Et donc le fait de passer une étape supérieure, qui était celui de servir mon pays, m'est venu assez naturellement.
Et d'ailleurs, anecdote, c'était le quartier populaire qui était situé à côté déjà de l'arsenal de
Marine.
Oui,
c'est vrai. Donc c'était un quartier où on retrouvait beaucoup de marins, on retrouvait beaucoup de gens de l'arsenal de Brest également. C'est un quartier qui était encore un peu isolé par rapport à Brest de l'époque. Maintenant, il est complètement englobé dans l'agglomération. Donc, il était à la fois au milieu des champs et au bord de la mer. Et je crois que le deuxième élément déclencheur de cette vocation, c'était sûrement le désir de faire un métier pas comme les autres. Je m'explique. Pour moi, la mer, ça représentait, comme vous l'avez dit, j'allais souvent sur cette petite plage de Sainte-Anne-du-Portique à côté de Saint-Pierre.
Où vous pouviez voir aussi les bâtiments de la flotte.
Et on voyait les bâtiments de la flotte rentrer, mais surtout partir. Et à l'époque, les vols aériens intercontinentaux étaient peu fréquents, en tout cas très chers. Et donc, le fait d'être marin, c'était aussi, dans mon imaginaire d'enfant, une vie de découverte. Et l'accomplissement d'un rêve, c'était de partir en mer pour voir d'autres rivages et d'autres civilisations. Donc c'est tout ça qui a forgé cette vocation.
Et puis il y a aussi les livres de Pierre Loti que vous mentionnez aussi
Pierre
dans votre livre.
Pierre Loti, d'Edouard Pesson et tout. Je dévorais tout ce que je pouvais comme livre maritime, les aventures de Suffren et d'autres. Donc c'était quelque chose qui était... ancré, sans mauvais jeu de mots, qui était ancré en moi, et ça me paraissait une évidence que c'était le métier que je voulais faire.
C'est intéressant et ça permet aussi d'embrayer sur la suite. Mmh. Vous passez des concours, vous intégrez le lycée naval de Brest où vous expérimentez la vie en communauté, mmh. où vous apprenez la discipline. Mmh. Comment est-ce que vous vivez ce premier contact avec la vie militaire, tout simplement ?
Alors c'était une expérience assez intéressante parce que je suis rentré au lycée naval en seconde, donc à l'âge de 14 ans, et ça a été à la fois un premier aboutissement de me dire je suis dans un établissement marine, on était civil habillé en militaire, mais j'étais dans cet établissement marine, et puis donc c'était un premier aboutissement. Bon, je vous cache pas que les premières nuits ont été un peu rudes, parce que quand on passe à 14 ans de l'intimité du cocon familial à des dortoirs de 24 personnes à l'époque, c'était une expérience intéressante. Mais comme vous l'avez souligné, ce qui était très intéressant, c'est que finalement, on a appris très vite la force du collectif, c'est-à-dire que de 24 jeunes gens, on était 24 par classe, on est devenu assez rapidement un groupe assez soudé, avec des histoires d'adolescents, mais un groupe assez soudé et très imprégné de l'esprit d'équipage.
Et après les concours justement que vous passez, après ce lycée naval de Brest, vous rejoignez l'école navale pour 2 ans pour devenir un bordage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre séjour à l'école navale, comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce que vous y avez appris? Peut-être un peu plus de communauté, par exemple?
Alors, on y apprend beaucoup de choses. D'abord, ça a été l'aboutissement d'un rêve, puisque mon rêve de gamin, j'avais dit assez rapidement à mes parents que je voulais rentrer à l'école navale. Ça a été les classes préparatoires, c'est un long chemin de croix que tous les bordages connaissent. C'est un concours qui est relativement difficile et scientifique. Mais en tout cas, c'était l'entrée à l'école navale. Ça a été pour moi à la fois une délivrance, parce que c'était l'accomplissement d'un rêve. Et puis, de nouveau, une grande découverte. C'est vrai que là aussi, on mesure la force du collectif, mais on mesure surtout ce que va être notre vie de marin par la suite. C'est-à-dire, on a toujours coutume de dire que l'école navale est un triptyque entre officier, marin et ingénieur. Mais c'est vrai, c'est exactement ce qu'on découvre à l'école navale en disant on a besoin pour une marine moderne d'avoir des gens qui savent commander, qui savent naviguer et qui savent faire fonctionner les machines les plus complexes au monde. Quand je vois le cas d'un sous-marin nucléaire, c'est l'objet le plus complexe, loin, mais très loin devant la navette spatiale. Donc ce triptyque officier, marin, ingénieur, il vous forge pour la vie. Oui, et on pourra en reparler sur la fin de ma carrière. Mais
exactement, on y reviendra plutôt en fin de podcast. Ouais. Mais il y a aussi, durant ces 2 ans à Naval, comme on dit chez les marins, parmi ces 2 ans à Naval, il y a un élément clé qui sert de confirmation. Tout au long des 2 ans, il y a des corvettes qui se font. Et vous, dans votre livre « Un marin à l'Élysée », vous racontez notamment la sortie à bord de la goélette Mimosa. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
C'était la première corvette. Alors une corvette, pour les gens qui nous écoutent, c'est une sortie d'instruction à la mer en conditions réelles. Et ma première sortie s'est faite sur la goélette Étoile et sur le dragueur côtier Mimosa. Là aussi, c'était un rêve, se dire, alors même s'il était relatif, si on était en double, s'il y avait des officiers et des officiers mariniers très expérimentés autour de nous, mais pour la première fois, on nous confiait les commandes d'un navire qui était, pour moi à l'époque, un gros navire, un dragueur côtier pour un jeune bordage, c'est déjà sa première expérience
à
la mer, des responsabilités. Alors, je dois dire que j'ai eu un peu de chance parce que cette corvette nous a conduit au large de Port-Salle, qui est mon port d'attache, qui était mon port d'attache de jeunesse. Donc je connaissais, j'aurais pu à la limite naviguer sans carte.
C'est ça, parce que vous aviez déjà l'expérience de la navigation.
Parce que ma jeunesse, vous avez parlé de de la plage de Sainte-Anne-de-Porzic, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à Port-Sal. Et donc, j'ai passé ma jeunesse à naviguer avec mon père et mon futur beau-père, je ne savais pas encore, autour des cailloux du Framver, de Molène et d'Ouessant. Donc c'est une région que je connaissais, je ne vais pas dire comme ma poche, je ne ferai pas preuve de cette
que vous connaissez bien en tout cas.
Mais que je connaissais bien, oui.
Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier alors à bord du Mimosa?
Bien, écoutez, d'abord c'est...
Comment était la mer peut-être déjà?
D'abord on était dans une mer bretonne donc bien formée. Ça a d'ailleurs signé ce que je raconte avec un peu d'humour dans mon livre, ça a signé la fin de belle carrière, parce que la corvette de Coutumont, c'est aussi fait pour ça, pour qu'on mesure la difficulté d'être à la mer, sur laquelle on rencontre parfois des situations difficiles. C'est aussi la manière de tester l'accoutumance au mal de mer. Dieu merci, ma jeunesse sur les flots m'avait préservé un peu de ça, mais c'était surtout, encore une fois, le sentiment de, un peu puéril encore, d'être le patron et d'être à la tête d'un bâtiment, c'était déjà un rêve. Alors ce rêve, après, il se complexifie et on passe de bâtiment de plus en plus gros. Mais déjà, c'est le souvenir, moi, très marquant de l'école navale, c'était qu'on me confie, même en double, des fonctions comme ça. C'était une apothéose, presque.
Et puis vous parlez aussi de sentiment de dompter la mer.
Il y avait quelque chose de cette...
D'être en prise avec quelque chose de plus grand.
Vous passez du statut de terrien à celui de marin. Donc la mer, quand vous la regardez de la terre, ça peut remuer beaucoup, mais vous êtes spectateur. Quand vous arrivez sur un bateau, vous devenez soudainement acteur, et donc vous apprenez à dompter la mer, le mot est très exact, et à maîtriser les éléments sous toutes leurs formes.
Et alors, vous passez 2 ans à l'école navale. 2 années marquées par beaucoup de fraternité, on l'a dit. 2 années marquées par beaucoup de travail aussi, quand même, mais aussi par un drame, le naufrage de l'Amoco Cadiz sur les roches de Port-Sal. Mmh. Justement, on en parlait il y a quelques instants. Au total, 100 000 tonnes de pétrole brut qui se déversent et qui emprisonnent. Dans votre livre, vous parlez de goélands emprisonnés dans la marée noire. À l'époque, vous étiez à Naval. Mmh. Comment avez-vous réagi en tant que marin?
Alors, c'était... un drame qui m'a touché personnellement, parce que la Amoco Cadiz s'est échouée juste en face de la maison de mes parents à Port-Sal. Et on a vu ce drame et ces circonstances dramatiques. On a vu la mer quasiment figée sous une nappe de pétrole immonde, et puis la vie marine disparaître sous nos yeux sans qu'on puisse pas y faire grand-chose. Et ça a éveillé chez moi d'abord une conscience écologique, en disant il ne faut plus que ce genre de choses surviennent. Mais surtout, au fil de ma carrière, ça m'a donné aussi la force pour défendre en particulier les moyens de, plus tard, comme chef d'état-major de la marine notamment, pour défendre les moyens de l'action, de ce qu'on appelle l'action de l'état en mer, et qui permettent d'éviter ce genre de pollution. Alors après, la Amoco Cadiz, il y a eu un certain nombre de mesures, l'établissement de rails de navigation, en particulier au large d'Ouessant et dans la Manche. Il y a eu la mise en alerte d'un remorqueur de haute mer à Brest. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont les marins doivent prendre conscience. Notre armée fait beaucoup de choses pour l'environnement, pour éviter la surpêche, pour
lutter
éviter
contre
les pollutions, pour surveiller les aires marines. Je crois que cette conscience écologique, en fait, elle est consubstantielle du métier de marin. C'est-à-dire qu'on vise dans un milieu qu'on a envie de protéger.
Et c'est en tout cas ce naufrage de l'Amoco Cadiz qui a créé un espèce de premier...
Ah, c'était un déclic, en tout cas. Ouais. C'était un déclic tellement le spectacle était effroyable.
D'ailleurs, Naval se termine à la fin des 2 ans. Il y a une tradition dans l'école. Il y a une tradition qui vient conclure la formation. C'est la mission Jeanne d'Arc. L'objectif, embarqué pendant 6 mois pour terminer de former les élèves officier, à quel moment est-ce que vous décidez, vous, parce que c'était votre souhait, de vous spécialiser dans les armes sous-marines?
Alors c'était quelque chose qui n'était pas évident lorsque je suis rentré à l'école navale, puisque comme je vous l'ai expliqué, moi je rêvais de longs voyages, d'aventures sur la mer et d'embrun, et donc c'était pas encore naturel quand je suis rentré à l'école navale de me consacrer aux forces sous-marines. Et puis on a eu, quand on est à l'école navale, on a des stages dans toutes les forces, l'aéronautique navale, les forces de surface, les sous-marins, les fusiliers marins, les commandos. Et puis donc, on doit choisir, à la fin de ces stages, dans quelle branche on veut aller. Et ce qui m'a déterminé pour les sous-marins, c'est deux choses. La première, c'est... Comme on nous formait en tant qu'ingénieur, j'ai apprécié, si vous voulez, le côté technique des sous-marins. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, je crois, c'était que j'ai trouvé un milieu dans lequel l'esprit d'équipage, dont on a déjà parlé, était porté à son sublime. C'est-à-dire que sur un sous-marin, vous vivez pour les autres, avec les autres et par les autres. Et alors c'est vrai aussi sur un bâtiment de surface, mais c'est encore plus fort sur les sous-marins. Et ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai fait ce stage sur le sous-marin Dauphin à Lorient en 1978, c'est cet esprit d'équipage, ce commandement... je ne vais pas dire informel, parce que le commandement existe, mais en tout cas, ce commandement bienveillant est plutôt décontracté, où finalement, vous vous imposez plus par votre compétence que par le grade.
C'est ça, c'est une différence qu'il y a aussi, qui se fait beaucoup, c'est qu'il y a le respect des grades, bien sûr, mais il y a aussi, en tout cas, vous l'évoquez dans votre livre, la primauté des compétences, des fois,
oui, parce que,
sur le grade.
Parce que c'est vrai aussi dans les autres branches de la marine. Hein. Mais en tout cas, là, c'était porté à son extrême. C'est-à-dire que comme moi, que je suis rentré dans les forces sous-marines, on était tous en jean et en t-shirt, personne ne portait de galon. Et pourtant, chacun connaissait sa place. Et tout ça dans une atmosphère qui était plutôt bienveillante et un équipage qui était extraordinairement soudé.
Très
et c'est
bien.
Ça qui m'a plu, en fait, c'est ce côté humain qui m'a décidé.
C'est ça, et qui vous a poussé à rejoindre ça. Alors, on va avancer rapidement, parce qu'il reste encore un peu de temps. Donc, vous faites vos armes dans le Normand, un bâtiment anti-sous-marin, d'abord, avant d'être affecté ensuite en tant qu'officier en 5e à bord du sous-marin La Praia, à Toulon. À ce moment-là, donc, on est en octobre 1980, et il y a un petit élément qui bascule, quand même. Votre premier enfant naît, et vous découvrez enfin... la vie sous-marine. Pouvez-vous nous dire un peu comment se passe la vie, la première nuit en tout cas ?
C'était une nuit un peu particulière parce que le sous-marin sur lequel j'embarquais, le La Praia, avait eu un accident en revenant à l'immersion périscopique quelques mois plus tôt. Il avait heurté le fond d'un pétrolier. Et donc, quand je suis arrivé pour mon premier contact avec la sous-marine, ça a été un bateau qui avait été endommagé. Et donc, c'était quelque chose... J'ai pris tout de suite conscience des dangers de la vie sous-marine. Et la première nuit a été intéressante, d'abord, parce que c'était la première plongée que je faisais en tant que... qu'acteur, pas en tant que spectateur, comme j'avais pu le faire pendant le stage sur sous-marin. Et un des officiers qui dormait au wagon, c'est-à-dire dans le petit poste qui sert pour le repos des officiers, s'est levé en disant quelque chose que j'interprétais comme « on coule ». Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il a vraiment dit. Puis là, je suis resté de marbre, j'ai attendu, j'ai regardé, personne ne bougeait, donc je dis ça ne doit pas être bien grave. Et donc je me suis endormi paisiblement. C'était ma première nuit sur sous-marin, dans un équipage qui avait été quand même touché par l'accident qu'ils avaient eu auparavant. Parce que c'était finalement la démonstration que le métier de sous-marinier peut être dangereux. Et qu'il faut donc avoir une rigueur encore plus exceptionnelle qu'ailleurs quand on fait ce métier-là.
C'est certain. Et puis, il y a aussi une situation familiale qui est particulière. Quand on est marin en général, quand on est sous-marin aussi, qui est la distance, potentiellement.
Oui, c'est vrai, la distance. Mais là, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on... Alors moi, je me suis marié juste avant la Jeanne d'Arc. Je connaissais mon épouse depuis...
Le club de voile, notamment.
Depuis le club de voile. C'est là que je lui ai fait de Port-Sal, là où j'ai fait sa connaissance. Et donc, j'avais déjà mesuré... les contraintes de l'éloignement au cours de la Jeanne d'Arc, puisque à l'époque, on partait 7 ou 8 mois, et donc très loin, et on n'avait pas de téléphone portable, tout ça était géré par des lettres qui arrivaient pas forcément dans l'ordre dans lequel on les avait postées. Enfin bon,
c'était moins immédiat.
C'était moins immédiat, donc cet éloignement familial, on l'avait déjà testé en famille. Alors ce qui était un peu différent, c'est qu'entre-temps, on avait eu notre premier garçon. Je me rappelle avoir écrit dans le livre que... ma fiancée de l'époque était venue à la présentation au drapeau et que j'avais eu une lueur d'inquiétude dans ses yeux, elle qui ne connaissait pas du tout le milieu de la marine, en se demandant où elle s'était engagée, parce que finalement les familles de marins, elles connaissent les familles militaires en général, elles connaissent un engagement qui est presque aussi fort que celui de marin. C'est une acceptation de contraintes, d'éloignement, parfois de sacrifices, parce qu'on aimerait être là pour des moments familiaux forts et on n'est pas là. Donc c'est quelque chose qui est là aussi très prégnant, avec parfois, et c'est le cas dans les sous-marins, une absence de nouvelles pendant une très longue durée, donc qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître en OPEX, par exemple, où le téléphone n'est jamais très loin. Là, c'est une coupure familiale extrême, si je puis dire, lorsqu'on part en patrouille sur sous-marin, et c'est quelque chose qui doit être abordé en famille. Cette vie-là, elle doit être abordée en famille.
D'ailleurs, pour les auditeurs, je l'ai dit il y a quelques instants, vous avez fait un bâtiment anti-sous-marin, donc un bâtiment de surface, puis un sous-marin classique. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs quels sont une différence entre tout simplement des bâtiments de surface et des sous-marins. Ça semble évident, c'est pas le même milieu, mais finalement, il y a aussi quelques distinctions.
Oui, alors, pas tant que ça, finalement, parce que on retrouve les fondamentaux de la marine, qui sont, comme je disais tout à l'heure, l'esprit d'équipage, cette capacité à fédérer tous les talents individuels au profit du groupe et de l'objectif qu'on poursuit. Ça, c'est très, on le retrouve à la fois sur un bâtiment de surface, sur un sous-marin et dans les zones d'unité de la marine. C'est notre culture, cet esprit d'équipage et cette culture du groupe. Elle est sans doute démultipliée à bord des sous-marins. Non, ce qui est largement différent, c'est la place qu'on a à bord. Et sur un sous-marin, vous ne pouvez jamais vous isoler. D'ailleurs, que sur un bâtiment de surface, quand vous en avez marre de voir les autres, vous avez besoin de prendre un peu de recul, vous allez sur un passe avant, vous allez sur la plateforme hélicoptère, sur un sous-marin, c'est impossible. Sur le Normand, j'étais jeune enseigne, j'avais une chambre individuelle. Sur le La Praia, on était logé dans le wagon, on n'avait pas de chambre du tout. On avait un carré commun et on avait qui était une toute petite pièce capable de contenir 4 ou 5 personnes. Et on avait ce qu'on appelait le wagon, c'est-à-dire deux rangées de 3 couchettes séparées par 30 cm dans lequel on vivait en permanence. Donc c'était cette promiscuité qui apprend aussi à écouter les autres et qui apprend l'humilité, hein, parce que comme on se marche les uns sur les autres, ça aussi c'est une caractéristique importante des sous-marins. Finalement, on apprend à écouter les autres et à subir un peu les autres, subir dans le bon sens du terme. Hein. On peut pas vivre sa vie tout seul, on est obligé de composer avec les autres.
D'ailleurs, après le La Praia, votre vie sous-marine ne s'arrête pas là. Fin des années 80, vous embarquez en tant qu'officier ASM à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le SNLE, qui est un peu le fleuron de la flotte française. Vous intégrez le Tonnant, donc, qui sera votre vaisseau pour une patrouille. Pouvez-vous nous dire un peu comment déjà ça se passe le jour du départ, puis ensuite?
Alors, c'était un embarquement dans des conditions un peu particulières, sur la patte de l'ancre, comme on dit dans la marine, pour expliquer qu'on a à peine le temps de se retourner, que l'ancre est déjà levée et qu'on embarque sur l'ancre à bord. En fait, je finissais mon école de spécialité missilier SNLE, qui était suivie par un stage nucléaire à Cadarache. Et un beau jour, on m'a dit, rentrez d'urgence à Brest, avant que mon cours soit terminé, on a besoin de vous pour embarquer sur un SNLE après-demain. Donc je suis rentré dardard à Brest, j'ai eu le temps de passer voir ma femme en disant « Désolé, je pars pour une certaine durée ». Et puis j'ai embarqué, alors non pas comme officier missilier, ça a été la surprise, mais comme officier ASM, anti-sous-marin, parce que un des officiers était indisponible, il avait fallu le remplacer au pied levé. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sur un bateau qui faisait plusieurs fois la taille du La Praia. Je dis, c'est Nello de l'époque, ça faisait 10 000 tonnes le La Praia en comptait beaucoup moins. Donc je me suis retrouvé chef de quart du jour au lendemain sur un bateau. Alors, je vous rassure, j'avais fait tout mon cycle sur simulateur d'entraînement, donc je le connaissais théoriquement. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé officier de manœuvre pour faire la sortie du goulet sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins que je voyais pour la première fois de ma vie.
Et puis ça doit être particulier aussi de passer d'un sous-marin classique un sous-marin nucléaire lanceur d'engins.
Oui, bien sûr, parce que le sous-marin classique, il fonctionne au diesel électrique, il faut recharger les batteries, on fait beaucoup de schnorchel et de périscope, et là on passait sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui disparaît au bout de quelques heures et qui refait surface après plus de 70 jours plus tard. Donc c'est une vie un peu différente, c'est un bâtiment qui est plus gros, dans lequel on a un peu plus d'espace pour vivre, mais fondamentalement ça ne change pas, enfin l'esprit ne change pas, les caractéristiques du sous-marin ne changent pas, il faut s'habituer à diriger un sous-marin qui est un peu plus gros, c'est tout.
Oui, et puis cette vie aussi dure jusqu'au début des années 90, c'est la date à laquelle vous prenez le commandement d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Du SNLE, on passe à un SNA, sous-marin nucléaire d'attaque. Celui que vous allez commander, c'est le Casabianca. Et à ce moment-là, vous avez 34 ans, 15 000 heures de plongée. Qu'est-ce que ça fait de passer de commandant en second à commandant d'un sous-marin nucléaire d'attaque?
Alors, auparavant, j'avais été commandant en second de l'Agosta.
Oui, on a dû faire une avance rapide.
Oui, avec une petite avance rapide. On a d'abord ce qu'on appelle le cours de commandement, dans lequel on est testé sous toutes les coutures par le redouté officier entraîneur. À l'époque, je ne savais pas que je serais officier entraîneur à l'issue de mes deux commandements de sous-marin nucléaire d'attaque. Non, c'est une responsabilité qu'on aborde avec nécessairement beaucoup de sérieux. 34 ans, c'est pas vieux, mais la moyenne d'âge d'un équipage de SNA à l'époque, c'était 27. Donc j'étais déjà, pas le doyen, mais j'étais déjà parmi les plus âgés. Et puis j'avais un potentiel d'expérience important, parce que comme vous l'avez rappelé, j'avais près de 15 000 heures de plongée, ce qui est assez considérable. Donc j'ai abordé ça avec beaucoup de sérénité. Puis une envie aussi, parce que les SNA étaient au début de leur vie opérationnelle. Le nucléaire avait été dans un premier temps consacré au sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et donc, je me suis vu confier l'un des premiers équipages de SNA. Et c'était une découverte et puis une aventure qui se présentait, parce qu'il fallait dompter ces bateaux.
Et ça permet aussi de parler un peu du commandement en tant que tel. Comment est-ce que ça se passe en termes de responsabilité, en termes de qualité? Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon commandant?
Les qualités nécessaires, elles sont communes à tous les bâtiments, qu'ils soient sous-marins ou pas sous-marins. Le sous-marin est complexe parce qu'on ne voit pas. Donc il faut deviner les intentions de l'adversaire.
Mais on y reviendra dans quelques instants.
En termes de commandement humain, c'est la même chose. On m'a demandé un jour, qu'est-ce qu'un bon commandant? Ma réponse a été, vous êtes un bon commandant quand vous êtes un commandant, quand votre commandement est naturel. C'est-à-dire que vous ne forcez pas à l'autorité. Ça veut dire qu'il faut avoir à la fois de l'exigence vis-à-vis de son équipage, il faut avoir de la bienveillance vis-à-vis de son équipage. Je crois beaucoup à ce mot bienveillance. C'est ça qui génère la confiance nécessaire pour aller au combat. Et puis il faut avoir, je crois, et ça c'est très fort dans la Marine nationale, cette volonté de marche en avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je répétais plus tard lorsque j'étais chef d'état-major de la marine, un commandant doit faire progresser son équipage. Il ne peut pas se contenter de rendre son équipage au même niveau que quand il a pris son commandement. Et cette nécessité de faire progresser, c'est quelque chose qui est vital dans la marine, parce que ça entraîne les gens. Et cette espèce de marche en avant, elle est fondamentale, en particulier pour fidéliser les gens, parce que comme ils ne stagnent jamais à la même place, bien finalement, ils trouvent un intérêt aussi personnel, au-delà de la volonté de servir, un intérêt personnel à devenir de plus en plus compétent.
Et puis même d'un point de vue personnel, le poids des responsabilités, ça doit peser. Comment est-ce que vous gérez la pression à 34 ans, 15 000 heures de plongée? Comment est-ce que vous gérez cette pression où chacune de vos actions a des conséquences potentielles de près ou de loin?
D'abord, on s'appuie sur l'expérience qu'on a acquise, sur l'observation des commandants qu'on a eus, et on doit à chacun d'entre nous beaucoup aux commandants qui nous ont formés. Donc ce n'est pas quelque chose qui est très marquant. On est très fiers aussi, parce que se voir confier des responsabilités pareilles à un âge plutôt jeune, c'est assez rare dans notre société. Donc c'est quelque chose qu'on aborde avec sérieux, avec rigueur, et puis comme je le disais, avec beaucoup de considération pour son équipage. C'est l'équipage, c'est la force du collectif qui est importante, et c'est ça qu'il faut cultiver.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous racontez le pistage d'un sous-marin russe en Méditerranée. On est dans les années 90, comme je l'ai dit, le bloc soviétique s'est fracturé et vous êtes envoyé pour pister Charlie, un sous-marin type Victor qui pourrait rôder à proximité des porte-avions français et américains. Ça permet d'aborder aussi les missions des sous-marins. Comment se passe la traque?
Ça a été pour moi un moment important, parce que c'était la première fois que j'étais engagé dans une mission opérationnelle de cette nature. J'en avais fait d'autres natures, mais pas comme commandant. Donc, comme commandant, ça a été ma première mission. Dans le livre, J'ai ouvert quelques coulisses, mais je n'ai pas ouvert les coffres. Mais j'explique globalement comment se passait à l'époque cette traque invisible, ce marquage invisible entre ce qu'était encore l'Union soviétique et l'OTAN. Donc ça a été une expérience forte, parce que c'est un peu pister un sous-marin, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Et donc il faut anticiper, analyser, écouter au sens propre ce qui se passe dehors, mais écouter aussi son équipage, les avis de son équipage, et ensuite décider seul de la manœuvre.
Et pour analyser, il faut des indices ? Sur quoi se basent les indices lorsqu'on est aveugle ?
Ça se base sur l'analyse des sons qui est faite directement. C'est ce qui a été rendu célèbre par un film récent, Les Oreilles d'Or, mais aussi par les capacités techniques de nos sonars qui sont très évoluées et qui nous permettent de reconnaître dans le bruit de la mer un adversaire potentiel.
Oui, et cette traque en Méditerranée, ça permet aussi d'illustrer les tâches d'un sous-marin nucléaire d'attaque.
Oui, c'est vrai, parce que j'ai remarqué que finalement, il y avait beaucoup de fantasmes autour des sous-marins, mais parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup. C'était une guerre invisible et on ne parlait pas beaucoup des missions. Et là, 30 ans se sont passés, donc on peut commencer à dévoiler un coin du rideau. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi explicatif des différentes missions. La première mission que j'explique, c'est celle de ce pistage, ce marquage des forces qui perdurent toujours. On est toujours à la recherche d'adversaires sous les mers. Et puis, c'est cette mission de surveillance de zone, puisque le SNA a une qualité fondamentale, c'est qu'il sait faire du renseignement au plus près de la côte, et cela en évitant de monter le niveau d'une crise.
Et ça permet aussi d'y aller progressivement et d'avancer progressivement dans cette interview, c'est-à-dire que ça permet, après ce commandement de SNA, vous terminez par l'apogée de votre carrière. En tant que sous-marinier, en 2000, on vous confie le commandement d'un SNLE, le commandement de l'inflexible, l'ambition de tout sous-marinier et marque de confiance suprême de l'institution. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce commandement ? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un rôle décisif dans la dissuasion nucléaire ?
Ça n'a pas été une découverte pour moi, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais aussi une spécialité missile SNLE, donc j'avais fait avant quelques patrouilles, 6 pour être exact, sur sous-marin nucléaire lanceur d'engin.
Oui, mais ce n'était pas un commandement.
Ce n'est pas un commandement, j'en avais fait 2 également comme commandement en second, donc je ne découvrais pas la mission. Et j'avais déjà beaucoup réfléchi sur ce qu'était la mission de dissuasion, dont je rappelle qu'elle est très particulière à certains pays. C'est la mise en œuvre de l'arme nucléaire, non pas pour attaquer, mais pour se défendre. Et finalement, le but de la dissuasion, ça n'est pas de faire la guerre, mais de l'empêcher. Puisqu'on n'utiliserait cette arme que dans des circonstances extrêmes de légitime défense et sur ordre direct du président de la République. Alors dans le système français, un commandement de SNLE s'acquiert après un commandement de sous-marin d'attaque, c'est-à-dire qu'on profite de l'expérience acquise comme chasseur pour éviter de devenir une proie, puisque le but du SNLE, c'est de se diluer dans l'océan et de remplir sa mission, de faire peser la menace de dommages inacceptables sur un adversaire qui voudrait s'en prendre à nos intérêts vitaux. C'est la doctrine française. Donc on a toute l'expérience voulue pour cela. C'est là où toute la force de notre système, puisque les commandants de SNLE sont matures, si je puis dire, oui. Mais matures au sens maîtrise de l'environnement, maîtrise des fonds sous-marins, maîtrise de la manière de se diluer dans cet océan pour rester indétecté.
C'est ça, vous êtes... Vous avez une autonomie qui est quand même particulière aussi.
Oui, bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec ce concept, c'est que finalement, pour pouvoir exercer cette dissuasion, il faut être à la mer, indétecté quelque part. Et la caractéristique du sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est que lorsqu'il se dilue, c'est-à-dire qu'il a fini sa phase d'entraînement à la mer au départ, plus personne ne sait où il est, à part le commandant et quelques hommes à bord. Donc même le président de la République ne le sait pas. Derrière, il y a une large autonomie pour remplir sa mission et être paré, si le cas se faisait sentir, à recevoir un ordre présidentiel et à mettre en œuvre l'arme.
D'ailleurs, votre affectation en tant que commandant dans la SNLE est marquée par de nombreux événements géopolitiques majeurs, dont l'un qui survient lors de votre deuxième patrouille. Est-ce que vous pouvez nous raconter notamment ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ?
Ça a été une expérience intéressante, puisque Ce jour-là, j'ai reçu un message qui était réservé commandant. Donc le message réservé commandant, seul le commandant peut le déchiffrer à l'aide d'une clé spéciale, et seul lui peut le lire. Et ce message me disait 5000 morts aux États-Unis, série d'attaques terroristes, les États-Unis se déclarent en guerre. Donc pour un commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, c'est un petit choc émotionnel qu'on ne montre pas. Et la question qui vient immédiatement derrière, c'est est-ce que je préviens mon équipage ou pas ? C'est quand même un événement majeur du point de vue stratégique. Et je ne l'ai pas fait pour une raison bien simple, c'est que je ne pouvais pas garantir qu'il n'y ait pas de membres des familles de l'équipage parmi les victimes du World Trade Center. Donc j'ai retenu cette information. Je l'ai livré à mon second, parce que quand on est commandant d'un CNLE, on dit tout à son second, au cas où il faudrait qu'il prenne la relève. Mais je ne l'ai pas dit à l'équipage, et je leur ai simplement raconté la veille de l'accostage, plus de 20 jours plus tard.
On y reviendra dans quelques instants. Là, j'aimerais quand même qu'on parle de cette solitude propre au commandement. C'est particulier quand même de garder cette...
Oui, mais cette solitude, elle est consubstantielle du commandement. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, vous pouvez demander des avis à votre équipage, et c'est vrai dans toutes les unités de la marine, qu'elles soient dans les airs, sur terre, sur la mer ou sous la mer, c'est que l'exercice du commandement, c'est un exercice solitaire. Dans la mesure où c'est vous qui prenez la décision ultime, naturellement après avoir consulté votre équipage, après avoir consulté tous les spécialistes, après avoir entendu tout le monde, mais la décision vous revient. Et ça, c'est le côté effrayant du commandement, c'est à la fois la beauté sublime du commandement, c'est cette solitude d'avoir à décider et d'avoir à décider seul.
Ensuite, vous révélez la nouvelle à la fin de
la patrouille. À la toute fin, parce que je ne voulais pas que mon équipage l'apprenne par les remorqueurs qui aidaient à la manœuvre, donc je leur ai dit la veille, c'est-à-dire au moment où on va faire surface avant de rentrer à l'île Longue, j'ai fait une diffusion générale leur racontant ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt.
Et ça a été accueilli comment ?
Il y a eu un grand silence qui a duré plusieurs minutes, mais en même temps, lorsque j'en rediscute avec... Il se trouve que pendant mes séances de dédicace du livre, je rencontre beaucoup d'anciens camarades des sous-marins, et je n'ai perçu aucune rancœur de ça. Au contraire, je pense que ça illustrait parfaitement ce fait qu'ils aient accepté que je leur ai tué cet événement pendant plusieurs semaines. Ça a illustré la confiance d'un équipage en son commandant. Et ça, j'ai vécu ça de manière très forte, en disant, mais finalement, ils ont accepté cette situation parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas faire autrement.
Merci de nous avoir préservés, entre guillemets.
Merci de nous avoir préservés un peu, oui.
À la fin de votre patrouille, donc, vous annoncez la nouvelle et aussi vous descendez pour la dernière fois, la coupée du sous-marin. Vous descendez sous les trilles du sifflet et ça vient conclure 20 ans de service embarqué. Avec du recul, 20 ans quand même, ça fait quelques enseignements à tirer, non ?
Oui, d'abord, ça n'a pas été la fin de ma carrière maritime.
Hein, oui, bien sûr, bien sûr.
La fin de ma carrière embarquée. Dieu merci, j'ai eu quelques fonctions après qui m'ont permis de réembarquer, dont celle de chef d'état-major de la marine. Mais non, c'était un grand moment d'émotion pour moi, parce que vous engagez comme marin, c'est pour être embarqué. Quand vous faites l'école navale, c'est pour la vie à la mer, d'abord. Ce qui n'empêche pas de prendre soin de votre famille et des camarades laissés à terre. Mais en tout cas, c'est votre but dans la vie quand vous engagez à l'école navale. Donc c'était un point de... Vous parlez d'apogée, c'est un point de rupture. Parce que vous dites, la dernière fois que j'ai descendu la coupée, je lui ai dit, ça y est, c'est fini. Plus jamais on confiera un commandement. J'étais pas à plaindre, j'en avais eu trois et de magnifiques commandements. Mais c'est la fin d'une époque. Vous dites, ça y est, ma vie embarquée prend fin là. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant.
C'est sûr. Vous entrez dans un autre bain, tout simplement, à la fin de...
C'est un autre monde, oui. Un autre monde qui est tout autant passionnant. Mais ça... On ne le voit pas encore. On a bien fait l'école de guerre, on sait qu'après on aura une autre vie, mais ça ne sera pas la même vie. Et donc, c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une vie embarquée à une vie terrienne, si je peux dire, aussi passionnante.
Et d'ailleurs, vous gardez quels souvenirs de la vie sous-marine actuellement ?
Je garde des souvenirs extraordinaires. Et j'ai dit dernièrement... lors d'une conférence au centre d'instruction navale à Brest, que si c'était à refaire, je referais ça de la même manière, et en espérant les mêmes joies. J'ai été également embarqué, vous l'avez dit, sur l'escorte rapide Le Normand, puis sur la frégate Tourville, dont j'ai été le second, et de tous ces souvenirs de sous-marins et de bâtiments de surface des souvenirs très forts de succès opérationnel, de force d'équipage, de solidarité, et puis dans un milieu qui est à la fois magnifique et qui peut être très cruel. Donc c'est une vie qui a été passionnante, je l'ai vécue comme ça, avec beaucoup de passion. Encore une fois, j'envie aujourd'hui les élèves de l'école navale.
Et à la fin, vous devenez quand même chef d'état-major de la marine, c'est le numéro 1 de la marine. On a parlé du naufrage de la Moco Cadiz. Est-ce que ce naufrage a notamment impacté vos projets lors de vos deux mandats en tant que chef d'état-major de la marine ?
Alors, je suis resté 5 ans chef d'état-major de la marine de 2011 à 2016, avant de devenir chef d'état-major particulier du président Hollande, puis du président Macron. Mais non, ça a été une période qui était, j'ai essayé d'expliquer ça dans le livre, qui a été à la fois complexe et passionnante. Complexe parce que nous étions dans une phase de réduction des armées qui avait été voulue par la révision générale des politiques publiques, qui était une grosse réduction, parce que à cause de cette réduction, nous étions également engagés dans l'interarmisation du soutien, qui paraît naturel aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait tout mettre en place. Il a fallu mettre en place les bases de défense. C'était quelque chose. C'était une rupture profonde avec le modèle d'avant. Et puis, en même temps, nous étions dans une phase de modernisation, même si, à mon goût, elle n'allait pas assez vite. Mais on voyait arriver des bâtiments qui n'avaient plus rien à voir avec les modèles d'avant. Moi, quand je suis rentré dans la marine, un bâtiment de 6000 tonnes était armé par 450 personnes. Au milieu était assez mécanique comme structure. Et quand je suis devenu chef d'état-major de la marine et qu'on a lancé le programme FREM, puis le programme FDI, ce sont des bateaux de même tonnage, mais qui ne sont plus armés que par 120 personnes. Et le cœur du système n'est plus mécanique, mais informatique. Donc il a fallu mener cette transformation, cette modernisation, en même temps que la réduction. Et c'est ça qui a été complexe, mais que je ne regrette pas, parce que ça nous a donné une force extraordinaire, c'est qu'on a été obligé de rebalayer tous nos modèles. Et comme la situation géostratégique évolue de manière très forte actuellement, on est en train de vivre un autre monde géostratégique que celui qui a suivi la guerre froide, et ce modèle qui a structuré les relations internationales à l'issue de la guerre froide est complètement obsolète aujourd'hui. On voit le retour des stratégies de puissance, on voit la fulgurance technologique qui nous oblige à repenser complètement le maintien en condition opérationnelle de nos bateaux, on voit la conflictualisation des espaces communs, on voit les stratégies hybrides se développer, on voit les problèmes environnementaux prendre une dimension jamais connue jusqu'alors. Donc il a fallu à la fois réduire, si je peux dire, la voilure de la marine à l'époque, et en même temps se projeter dans le futur. Et ça, c'était une période extrêmement forte.
Surtout en tant que numéro 1 de la marine.
Oui, bien sûr, parce que vous avez la responsabilité de conduire ces réformes. Et j'ai engagé, ce que j'explique dans le livre, j'ai voulu faire de cette période que j'appelle les deux premières années, j'appelle ça la période des tempêtes, parce qu'on était vraiment dans une tempête capacitaire, une tempête de ressources humaines. Il fallait réduire aussi le volume des ressources humaines, et puis encore une fois, avec des bateaux qu'il fallait, des nouveaux bâtiments qu'il fallait apprivoiser. Donc après ce cap des tempêtes, on s'est mis en ordre de bataille, en équipage, et c'est ce que j'ai voulu comme projet, c'est-à-dire que je voulais d'abord qu'on arrête de dire qu'on était des misérables alors qu'on restait la première marine d'Europe, je n'ai pas peur de le dire, et puis surtout qu'on avait à conduire un projet qui était cette transformation et cette modernisation de la marine, et que ce projet, j'imaginais pas un instant qu'on ne puisse pas le conduire ensemble en équipage. Et c'est ce qu'on a fait en changeant les modes de concertation, en rendant la concertation apte aux réseaux sociaux, en gros, hein, c'est-à-dire que je voulais pas que ça soit les réseaux sociaux qui dictent le moral de mes marins, donc j'ai changé parce que c'était nécessaire. Et puis grâce à ce changement de concertation, avec des modalités plus souples de consultation du Conseil de la fonction militaire marine, du Conseil supérieur de la fonction militaire, mais aussi des majors conseillers, qui sont une invention qui avait été voulue par l'un de mes prédécesseurs, qui m'a été très utile, eh bien on a réussi à bâtir en commun cette marine de demain, avec le plan que j'avais appelé à l'époque Horizon Marine 2025, mais en tout cas c'était un plan qui était bâti sur plusieurs piliers et qu'on a fait avancer ensemble, donc c'était passionnant.
Très bien, et d'ailleurs bâtir la marine de demain. La marine actuelle, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien chef d'état-major de la marine ?
Moi, je suis assez fier de ce qu'on a réalisé ensemble, parce qu'on a aujourd'hui une marine qui est très opérationnelle, une marine qui a des équipements dont il faut s'apercevoir qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. Nos sous-marins sont parmi les meilleurs au monde. Nos frégates multimissions et leurs sonars accumulent les awards américains, c'est-à-dire les récompenses dans le domaine de la lutte anti-sous-marine américain. J'ai cru comprendre que nos NH-90 et nos avions de patrouille maritime modernisés étaient également un grand succès. Donc je crois qu'on peut être fier du travail qu'on a fait sur plusieurs générations. Hein. J'ai initié cette transformation sous les contraintes que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un travail de plusieurs générations. Puis surtout, c'est un travail de l'équipage marine ensemble qui est tout à fait important. Et aujourd'hui, on a, alors certes, j'aimerais qu'on ait un peu plus de frégates. On pourrait avoir aussi un deuxième porte-avions, peut-être un jour. Mais en tout cas, soyons fiers de ce que nos équipages font aujourd'hui. Soyons fiers aussi d'avoir des industriels qui soient capables de nous délivrer des matériels comme ça en national. Il y a peu de pays dans le monde. Et ça, je le replace aussi sur les conditions de notre indépendance et de notre souveraineté, et qui sont des fondamentaux de la politique de défense française depuis des années. On ne pourrait pas avoir l'indépendance et la souveraineté si on n'avait pas des équipements performants et si on n'avait pas des ressources humaines exceptionnelles. Je pense que notre défi, il va être probablement plus sur les ressources humaines que les capacités. C'est d'autres qui en ont la responsabilité. Mais en tout cas, je vois bien que notre société, qui est devenue assez individualiste en réalité, j'espère qu'elle pourra continuer à nous fournir des jeunes passionnés, comme c'est le cas aujourd'hui, et des jeunes qui ont envie de mettre leur talent individuel au service du collectif. Moi, j'en suis persuadé. Je vois pas de faiblissement du recrutement, bien au contraire. Je crois qu'il faudra qu'on fasse extrêmement attention aux familles. Comme je vous l'ai dit, on leur demande un engagement assez particulier par rapport à la société civile. Cette vie d'éloignement, cette vie de contrainte, cette vie de peur parfois pour l'être aimé. Donc il faut qu'on y fasse très attention. C'est ce que le président a voulu faire avec le plan famille en particulier. Et puis il faudra arriver à fidéliser les gens, parce que la question qui va se poser, c'est combien de temps les gens accepteront des contraintes qui sont quand même importantes dans le métier, dans une société qui n'aime plus les contraintes. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, devra être sur lequel les autorités de la marine, je sais qu'elles le sont, devront être très vigilantes dans l'avenir. Pas tellement sur le recrutement, je crois qu'on fait un métier tellement extraordinaire qu'on arrivera par le rêve et l'envie de découverte et ce métier exceptionnel à attirer encore les jeunes. Il faudra les garder le temps suffisant, donc les fidéliser. Ça va être un enjeu majeur.
Dernière question, amiral. On a parlé de jeunes, on a parlé de fidélisation. Que diriez-vous à un jeune qui songe justement à entrer dans la marine ?
Je leur dirais, vas-y. Je recommanderais tout à fait le métier de marin. Je crois que ce que j'ai pu mesurer avec mon expérience maintenant, je ne voudrais pas jouer le vieux sage qui est arrivé à la fin de sa vie, mais en tout cas, ce que j'ai pu mesurer dans mes affectations suivantes, le métier de marin nous donne des atouts extraordinaires. Ce n'est pas le seul. Nos camarades de l'armée de terre, de l'armée de l'air, pourraient faire probablement autant de publicité pour leur armée. Mais en tout cas, moi, j'ai été très frappé par notre capacité, par la capacité des marins à se fondre dans n'importe quel milieu. Parce qu'on vient d'un milieu qui, par nature, est instable. On vient d'un milieu qui a l'habitude de regarder le monde, et pas seulement le monde de manière large, et pas par un petit bout de la lorgnette. Finalement, quand on est marin, le monde nous appartient, au sens poétique du terme. Mais en tout cas, on voit les effets de la mondialisation, par l'augmentation des trafics, par l'importance des détroits, par l'importance des points d'accès. Donc on voit tout ça, et ça donne une force extraordinaire qui nous permet ensuite de nous glisser à peu près partout sans trop de difficultés. C'était pas naturel qu'un sous-marinier devienne le patron des opérations françaises en Afghanistan, mais j'ai pas senti de difficultés particulières, parce qu'on a cette capacité d'adaptation qui est liée intimement à notre métier de marin, qui nous permet de faire face. Et puis surtout, on sait motiver les équipes, et on sait faire travailler en équipe. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et quand on s'engage à la marine, il faut avoir conscience de ça. Quand un jeune à l'école navale aujourd'hui s'engage dans une carrière militaire, il faut qu'il soit convaincu qu'il va apprendre le métier de marin, mais qu'il va aussi acquérir beaucoup de qualités qui vont lui permettre de s'offondre un peu partout.
Donc, fonce et vas-y.
Mais tout ça repose sur le travail, vous l'avez dit tout à l'heure, et repose aussi sur la volonté d'avancer. C'est cette fameuse marche en avant que j'évoquais tout à l'heure.
Eh ben, c'est le mot de la fin, amiral. Merci, amiral Rogel. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de sous-marin nucléaire. Je rappelle que vous êtes aussi ancien chef d'état-major de la marine et ancien conseiller militaire particulier du président de la République. Votre livre s'intitule « Un marin à l'Élysée » et est paru chez Talendier en 2023. À tous nos auditeurs, je vous donne rendez-vous jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la marine. Thank you.